Bonjour Emmanuel Comte.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, vous êtes professeur à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Vous avez coécrit Le transport aérien à la découverte, c'est le dernier, je crois.
Oui,
c'est ça. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour.
Bonjour.
Il est PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République, la place de marché Internet qui offre des solutions d'entreprise aux enjeux du pays. C'est vous, Léonidas, qui m'avez alerté sur ce
UCS.
Oui, oui. Voilà, cette norme européenne de sécurité. La vérité, c'est que je suis allé voir ce que c'était.
Oui.
Donc vous allez m'expliquer ce que c'est parce que je suis pas très au courant finalement.
Bon, c'est la cybersécurité.
J'ai suivi pas mal d'éléments sur les nouvelles réglementations européennes, notamment le DSA, le DMA, mais il y en a quand même certaines où mon expertise s'arrête. Bonjour Erwan Tison, spécialiste du recul de la productivité, le sujet qui déchire les économistes, directeur des études de l'Institut Sapiens et co-auteur de Un robot dans ma voiture, prendre le véhicule, le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Un rebond du prix du pétrole est déjà engagé. Une hausse du prix du gaz naturel a été observée depuis vendredi. On a pris 7% sur l'indice de référence européen à Rotterdam. Effet immédiat, évidemment, avec l'entrée de l'Iran qui, compte tenu de sa capacité à bloquer le détroit d'Ormuz par où transite 20% du brut mondial et un quart du GNL mondial quotidiennement, a la possibilité d'alimenter un choc énergétique, même plus qu'un choc pétrolier. Pour l'instant, tout s'était plutôt bien passé, compte tenu sur le prix du baril de pétrole, malgré les événements au Proche-Orient. Mais là, la situation est évidemment nouvelle. Emmanuel Combes, c'est pas compliqué. Si on a un choc énergétique dans un pays totalement dépendant pour son énergie fossile, c'est la lutte contre l'inflation qui est mise à l'arrêt.
Ah, mais c'est mécanique. Ça s'appelle de l'inflation à importer. Et si je prends un tout petit peu de recul par rapport au sujet, ce que je trouve intéressant, et ça conforte la thèse que, vous le savez, je défends depuis 3-4 ans, c'est qu'on est entré dans un monde où l'inflation structurelle sera plus forte. Un, protectionnisme, on va y revenir, hein, le protectionnisme ça fait monter les prix, on l'oublie. Secondement, la transition climatique, ça fait monter les coûts, notamment parce qu'il y a des sécheresses, parce qu'il y a des événements extrêmes. Et troisièmement, on est rentré dans un monde où la géopolitique devient très importante. En réalité, le prix du pétrole, c'est un événement géopolitique, c'est pas un événement économique. Et comment on va voir se multiplier ce type d'événements, enfin probablement, malheureusement, tendanciellement, vous devriez avoir une inflation structurelle qui soit plus importante. Donc oui, pour répondre à votre question très clairement, ça va s'appeler de l'inflation importée.
De l'inflation importée. Ça veut dire que on attend, Léonidas, la baisse des taux de la BCE. Je sais que vous êtes friand à l'idée que les banques centrales baissent leurs taux d'intérêt. Enfin.
Oui.
Et là, si on a un choc énergétique avec un regain d'inflation, eh bien, de la même manière qu'aux États-Unis, la Réserve fédérale est peut-être en train de mettre la pédale douce sur ses prévisions de baisse de taux. Ça peut remettre tout simplement en cause le desserrement de politique monétaire tant attendu, qui pour l'instant est pratiquement annoncé pour le 6 juin.
Oui, mais il y a quand même un véritable paradoxe à vouloir lutter contre une inflation importée comme celle que l'on risque d'avoir avec les menaces sur le détroit d'Ormuz et utiliser, par rapport à cette inflation qui n'a strictement rien d'autre que une espèce de conséquence sur les marchés énergétiques de tensions géopolitiques, on ne va pas utiliser les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation liée à l'augmentation des prix énergétiques.
Enfin, on referait la même erreur que la première fois.
Enfin, faut arrêter. Il y a un moment donné où cette absurdité-là, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, on a eu déjà une première vague d'inflation.
Vous appelez ça une absurdité. Le choix des mots est toujours compliqué pour
essayer. C'est une absurdité. Enfin, pardon, mais c'est comme, je sais pas, prendre une aspirine pour lutter contre je ne sais quelle maladie infectieuse. Enfin, c'est absurde. C'est un mauvais médicament par rapport à une maladie que l'on identifie comme étant effectivement l'augmentation des prix énergétiques. Donc, si on ce phénomène-là, eh bien, globalement, la planète entière et l'économie mondiale va se retrouver avec des tensions inflationnistes, mais on ne va pas recommencer à pénaliser encore plus l'économie en agissant sur les taux d'intérêt pour les augmenter, pour lutter de manière, presque irrationnelle sur quelque chose qui n'a aucune chance de varier avec les taux d'intérêt. C'est pas parce qu'on va faire bouger les taux d'intérêt en Europe, aux États-Unis que le détroit d'Ormuz va se libérer.
Je suis d'accord, Léonidas. Je reviens à cette discussion que j'avais eue un jour un peu inattendue avec un responsable de la Banque de France qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans cette situation d'affaires ? Si on ne fait rien,
oui,
on est en porte-à-faux par rapport à notre mission.
Bien.
Même si, effectivement, peut-être que l'arme des taux n'est pas la bonne face à un choc d'offres. car c'est un choc d'offres.
C'est un choc d'offres sur un marché très particulier qui a une incidence sur la totalité de l'économie. Mais pardonnez-moi, mais je pense que personne ne s'intéresse à la question de savoir si psychologiquement les directeurs de banque centrale se sentent à l'aise à ne rien faire devant un choc inflationniste. Ce n'est, ils n'ont pas d'armes pour lutter contre les effets du blocage du détroit d'Hormuz.
Et Rouhan, pour refermer le sujet sur le risque d'un choc d'offre énergétique.
Non, mais la BCE sera obligée de bouger parce que...
Obligée de bouger dans quel sens?
Elle sera obligée de bouger au niveau de ses taux. Elle sera obligée de refaire marche arrière par rapport à ce qui était prévu.
C'est pas possible.
Elle a une mission, c'est lutter contre l'inflation. C'est sa mission statutaire. Elle ne peut pas aller à l'encontre de ses statuts. Parce qu'en plus, elle a fixé une règle et elle est 100% indépendante. Donc si jamais elle se mettait à dire, effectivement, j'entends votre argument, Léonidas, mais si elle se mettait à dire, l'inflation en question, c'est de l'inflation type énergétique, donc du coup je ne vais pas bouger sur les taux, elle ferait de la décision. Et dans ces cas-là, malheureusement, elle changerait complètement son statut qui est basé sur une règle, et en faisant de la décision, elle peut effriter la crédibilité qu'elle aurait. Et vu, on en parlera après, la montagne de dettes qu'on a aujourd'hui, notamment en France, ça serait là, pour le coup, il y aurait un vrai risque de défaut, en tout cas, je dis bien le mot défaut, sur la dette française, à cause justement de la crédibilité de l'euro. Donc la BCE sera obligée de bouger. Elle se fout de savoir de l'origine. Ce qu'elle traite, c'est les symptômes.
Je pense que Erwan a raison.
Mais bien
je
sûr.
Pense qu'Erwan a raison. Sûr. Vous n'êtes pas... Mais ça fait longtemps que vous avez le même discours et vous êtes maintenant nombreux à l'avoir et vous étiez peu nombreux au début, mais je pense qu'Erwan fondamentalement.
Je voudrais juste, si vous m'autorisez un mot pour répondre à Erwan, vous le savez comme moi, lorsque l'on augmente les taux, on augmente les taux pour quelque part faire du mal à l'économie parce qu'on considère, qu'elle est trop dynamique et qu'il faut la ralentir.
Oui, c'est un refroidissement.
Je dis malheureusement, c'est ce qu'il faut, qu'elle va être obligée de bouger.
Refroidir l'économie alors qu'elle se prend déjà un premier choc sur l'augmentation, je ne sais pas quelle sera la proportion, avoir déjà un choc énergétique, c'est déjà faire du mal à l'économie. Augmenter les coûts, c'est lui faire encore plus de mal. C'est-à-dire, véritablement, c'est pousser la totalité de nos économies au bord du précipice, alors que parallèlement, politique budgétaire, comme on l'a eu durant la période inflationniste, où on essaye au contraire de la sauver. C'est-à-dire que vous avez deux leviers qui sont des autorités publiques, avec des légitimités différentes, mais sont toutes les deux publiques, qui agissent de manière totalement contradictoire. L'un pour refroidir encore plus l'économie et l'autre pour essayer de la sauver.
Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, j'explique juste le mécanisme. Et si, malheureusement, on se met à trier le bon grain de livret en termes d'inflation au niveau monétaire, on casse l'euro, on casse la zone euro.
Mais bien sûr.
Mais je pense que le problème ne se posera pas que pour la BCE, il se posera également pour la Banque Centrale Américaine.
Qui n'a pas les mêmes statuts que la BCE.
Et tu ne peux pas comparer... Moi, je suis complètement sur la ligne d'Erwan, je ne dis pas que c'est bien. On ne peut pas comparer la politique... On va venir à la dette. La politique budgétaire qui est discrétionnaire, en clair, je fais ce que je veux. On va y revenir. Moi, je ne crois pas une seconde que le ratio dette publique va baisser. Je pense que les économistes sont, pour le coup, de grands naïfs. Par contre, la politique monétaire, elle obéit à des règles. On peut le regretter. Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On ne fait jamais d'exception à la règle, sauf quand la situation est elle-même exceptionnelle. Ça s'appelle la crise Covid. Mais là, c'est pas exceptionnel, ça s'appelle un choc d'offres. Ça peut être le pétrole, ça peut être d'autres choses. Si la BCE faisait ça, ce qu'elle gagnerait à court terme, en termes en effet de croissance, elle le perdrait à long terme en crédibilité, elle ruinerait toute sa crédibilité. Donc elle n'a pas le choix, elle a un mandat, son mandat est étroit, il n'est pas écrit dans son mandat, vous lutterez contre l'inflation en fonction des causes de l'inflation. Vous lutterez contre l'inflation, point à la ligne. Donc de toute façon, peu importe l'origine, peu importe la cause, elle est tenue par des règles. Donc tu peux pas comparer, à mon sens, on va y revenir, politique budgétaire qui est complètement discrétionnaire, où là tu peux augmenter, baisser, faire ce que tu veux, en général tu augmentes, et la politique monétaire où de toute façon tu n'as pas le choix. Donc non, moi je partage complètement le point de vue de Erwan. Mais je te dis pas que c'est bien, c'est un autre sujet.
Non mais c'est pas totalement un autre sujet, parce que
c'est pas
tout à fait un autre sujet, parce que globalement si on accepte que l'absurdité va nous guider et gouverner la politique de la BEI, c'est juste admettre,
de la BCE,
c'est effectivement admettre que nous n'avons aucun pouvoir sur une instance publique dont
c'est 40 ans de sciences économiques. Alors après tu peux la critiquer, la
heureusement
c'est
qu'on a
aucun... Rogoff 1983 qui te dit
imagine
la politique monétaire gérée par le politique, ça donne la même chose que la politique budgétaire dont je te rappelle on est à 112% du PIB.
Il y a tous les travaux de Gordon Shapiro là-dessus aussi. Imaginons la Banque Centrale Européenne dans les mains de ceux qui créent des bonus réparation et des chèques bois. Mais on serait en train de payer notre baguette de pain avec des brouettes d'euros.
Non, mais soyons sérieux. Pardonnez-moi, je ne suis pas en train de dire que la règle qui a fixé, comme vous le dites, le chemin étroit de la BCE est une règle absurde. Je suis en train de dire qu'elle a été fixée à une époque où on a globalement considéré que la paix était éternelle sur notre planète, comment dirais-je, angélique. Et comme elle est éternelle, il ne peut y avoir que des phénomènes économiques. Donc on n'a pas pris en considération le fait que, comme ça s'est passé avec l'Ukraine, et comme c'est en train de se passer avec le Moyen-Orient, il peut y avoir des chocs, géopolitiques qui peuvent avoir des effets sur le prix pétrolier. Et ce choc inflationniste énergétique, celui-là doit échapper à une espèce de dogme, c'est-à-dire dès que je vois un peu d'inflation, j'augmente mes taux. Là, c'est absurde.
Ah, c'est un autre sujet. Pardon, Léonie, je t'interromps. Moi, je pense que la cible, c'est quoi? C'est 2% en inflation.
Oui, c'est toujours
2%. Devrait être haussé. Je pense qu'on est sur de l'inflation structurelle pour 30 ans, pour la transition climatique.
Mais maintenant, c'est 2% pluriannuel.
Mettons, je ne sais pas, je crois que c'était Blanchard. Blanchard qui avait réfléchi à ça en disant, passons peut-être, je ne sais pas, à 2,5 ou 3. Mais c'est un autre sujet. Mais tu te donnes une autre règle. Ça n'en reste pas moins une règle. Dire je mets 3% au lieu de 2%, il y a quand même l'idée, si je dis que c'est 3, ça ne sera pas 4.
Et toi, tu nous dis finalement... On n'est pas obligé de se condamner à être aveugle.
Laisse-moi juste terminer. C'est pas la même chose de dire j'ai 2 et en fait, je fais un peu ce que je veux, ou la personne te croit, et de dire je renonce à 2 et je mets 3.
Et je l'inscris dans mes statuts.
C'est pas la même chose.
Mais pardonnez-moi, mais l'un et l'autre, je ne vois pas comment on peut sciemment se dire je veux être frappé de cécité et ne pas être capable d'avoir un minimum de discernement entre une inflation qui est due à un déséquilibre offre-demande.
Tu as un gain à court terme et tu vas le payer à très long terme, ce sera plus crédible.
Ce débat, il est essentiel. Et Léonidas, la question que vous posez, je pense qu'en plus, elle est posée par plusieurs centaines de millions de personnes sur le continent européen. On a effectivement un outil monétaire et on s'interdit de l'utiliser. Ce qu'il faut se dire, c'est que, et je pense que la plupart des économistes, des monétaristes qu'on a dans notre paysage, qui sont en plus très brillants, mériteraient d'être plus invités et en tout cas de faire preuve de pédagogie là-dessus. La monnaie étant une convention, le problème, que cette convention-là, elle dépend exclusivement de la confiance. On n'a pas la stabilité que pourraient avoir, par exemple, les États-Unis avec une robustesse de leur monnaie qui nous permettrait de faire ce qu'on voudrait, parce que c'est clairement ce qu'ils font. Et on n'a pas la détention de la monnaie presque de manière domestique, comme peuvent l'avoir les Japonais, qui eux aussi font ce qu'ils veulent. On est le premier marché ouvert en Europe avec plus 27 pays, 27 politiques budgétaires. On n'a pas de policy mix parce qu'on s'est interdit d'aller jusqu'à ce que proposait notamment la plupart des théoriciens de l'Union européenne de créer en fait tout simplement une politique monétaire adossée à la politique budgétaire. En tout cas, de faire la politique budgétaire à réaction de la politique monétaire. Donc, on se doit de fixer une contrainte qui est la politique monétaire qui ne bouge pas. Malheureusement, si jamais demain on commence à le bouger effectivement temporairement sur le pétrole, et je l'entends très bien, on peut se dire au mois de juin, nos entreprises vont souffrir, il faut les aider. Mais demain, ça pourrait être, il faut aider les panneaux photovoltaïques parce qu'on a un problème avec les Chinois. Après-demain, ça pourrait être on a un problème avec les moteurs, on a un problème avec le bâtiment. Et dans ces cas-là, on va avoir des demandes catégorielles qui seront légitimes, multipliées par les demandes nationales qui, elles aussi, sont légitimes. Donc, vous multipliez 200 secteurs fois 27 pays et vous obtenez le nombre de demandes qu'on va avoir tous les jours.
Je suis en désaccord radical avec vous, Erwan. Je suis en accord total sur vos postulats et en désaccord total sur votre conclusion. Vos postulats me semblent totalement justes. Et qu'il y ait des règles extrêmement strictes qui sont imposées à la BCE me semble très sain. En revanche, que ces règles très strictes interdisent d'avoir un minimum de discernement devant ce qui vient de se passer il y a 24 heures sous nos yeux à l'échelle planétaire.
Moi, je ne fais pas confiance au discernement humain quand on parle de monnaie.
Je
peux élargir le sujet.
Allez-y, c'est marrant, on avait prévu d'en parler.
Ça nous permet de parler de la dette.
On va glisser vers la dette.
Mais c'est un vrai sujet.
Dette, protectionnisme, politique monétaire. Il y a un point commun dans notre débat, c'est le poids des intérêts particuliers.
Oui,
dès lors que vous rendez une institution indépendante, vous laissez un peu les lobbies, c'est-à-dire les intérêts particuliers, un petit peu en retrait. Le protectionnisme, on va y revenir, c'est quand même des histoires d'intérêts particuliers. Quand on vous dit que le CETA est un échec, quand on regarde les chiffres, c'est pas ça. Simplement, il y a la voix de certains qui portent plus que d'autres. D'accord? Donc ça, c'est assez important. La dette publique, revenons au même sujet. Vous avez des intérêts particuliers. L'intérêt des retraités n'est pas le même que l'intérêt des jeunes. Eh bien, on voit ce que ça donne. À la fin, ça donne 112% du PIB. Car j'y viens à ce sujet de la dette publique. Moi, je ne crois pas un instant, contrairement à mes collègues économistes, mais pas un instant que la dette publique, le ratio dette publique va baisser. C'est une douce illusion. Et pourquoi c'est une douce illusion? Parce qu'on n'a pas compris que pour un homme politique, la dette, ça n'est pas un problème. c'est une solution. Solution, attendez, laissez-moi juste finir. À trois sujets.
D'abord, j'aurai des bémols, Emmanuel. Là.
Je vais venir après au rôle des agences de notation.
Parce qu'on n'est pas les seuls en Europe à fonctionner avec l'euro. Il y a des ratios dette sur PIB qui ont reculé.
Juste si je peux.
Il y a de la politique dans tous les États. Il y a des élections.
Si je peux juste.
Oui.
Il y a au moins trois facteurs. Vous avez raison. D'abord, il y a le cycle électoral. Quand il y a des élections, en général, je fais de la dépense publique. Vous me direz, il y a aussi des élections en Allemagne. J'en conviens.
Secondement, donc, 25 milliards d'économies en 2025.
Secondement, la polarisation, et tout ça, je ne l'ai pas inventé. Ça, on le sait en économie depuis 40 ans. Il y a un courant qui s'appelle l'économie politique du déficit public qui vous dit plus la vie politique est polarisée. Or, en France, et ça, c'est une différence avec l'Allemagne, il n'y a pas consensus sur l'usage de la dépense publique. Grosso modo, quand vous êtes de gauche, c'est plutôt pour de la dépense sociale. Et quand vous êtes, entre guillemets, de droite, on est plutôt sur de l'investissement, etc. Donc, il y a un conflit. Si vous avez un conflit très fort entre gauche et droite, vous avez intérêt à faire de la dette. Pourquoi ? Si vous perdez les élections, et c'est pour la dette, elle n'est pas pour vous, elle est pour le suivant. Donc vous voyez, il y a tout un mécanisme, j'ai fait une chronique là-dessus, il y a plusieurs mécanismes politiques qui vous montrent que si vous êtes un décideur politique, mais vous avez intérêt à faire de la dette. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de limite à la dette. Il y a des forces de rappel. Laisse-moi juste finir. Il y a des forces de rappel. Non. Première force de rappel, l'Europe. Pacte de stabilité, bon, on voit ce que ça donne.
J'avais rappelé la dernière procédure pour déficit excessif remontée à 2009 et elle s'est refermée en 2018.
Donc le pacte de stabilité.
Ça a duré presque 10 ans, personne ne s'en est rendu compte.
Donc le pacte de stabilité, ça n'est pas une corde de rappel. Rendre indépendante la politique budgétaire, là on est dans le doux rêve. Le budget, c'est de l'ordre du politique. Alors on a le Haut Conseil des Finances Publiques, il faut s'en féliciter, on lui demande son opinion et après on fait ce qu'on veut.
Oui, donc, il est consultatif à l'eau.
Donc finalement, il ne reste plus qu'une force de rappel. Et c'est la chronique que je vais pas faire paraître dans l'opinion, c'est en réalité les agences de notation. Là, il y a une étude très intéressante qui montre que les agences de notation n'ont pas un impact sur le taux d'intérêt, elles ont un impact sur le vote.
Mais je suis
pardon. Je peux juste terminer.
Je pense que la démonstration est allée loin.
Non, me laisse finir.
Parce que il y a un papier. Alors tu peux critiquer les papiers de recherche.
C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs à propos de cette chronique.
Il y a un papier de recherche sur 27 pays d'Europe 2000-2017 qui te montre que quand vous êtes dégradé, ça n'a pas un impact tellement sur le taux d'intérêt. D'ailleurs, la France, si elle est dégradée, ça n'aura quasiment pas d'impact. Par contre, ça a un impact sur le vote. Une dégradation fait que les personnes se disent, si on a été dégradé, c'est que le gouvernement est mauvais. S'il est mauvais, je vais voter pour l'autre. Donc, paradoxalement, on pourrait presque dire, si on était un peu provoquant, les agences de notation viennent limiter la tentation du décideur politique naturel de faire de la dette publique. Fondamentalement,
j'ai envie de vous dire que j'y crois moins en France. Il y a une phrase que j'ai retenue, la phrase de l'année pour moi de Bruno Le Maire, c'est la dette, ça n'intéresse personne. Les Français, ça les intéresse pas, la dette. Les agences de notation, ce qu'elles vont dire, ça va intéresser une tête d'épingle de l'opinion publique. Ça va passer pour
c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est la sanction.
Oui.
Vous êtes sanctionné.
Je voudrais répondre à ce que vient de dire Emmanuel Combes.
On a assez 2 minutes 10 avant de marquer une pause.
Mais assez rapidement sur ce point, parce que je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée que réfléchir à une inflexion de l'existence sur la BCE, c'est ouvrir la boîte de Pandore à toute espèce de débat sur la politique monétaire. J'ai dit simplement que la politique monétaire en temps de paix et la politique monétaire en temps de guerre, c'est pas la même. Que nous avons eu 2 chocs sous les yeux, l'Ukraine et le deuxième aujourd'hui, c'est le conflit au Moyen-Orient. Ce qui peut impacter nos économies dans une situation de guerre, c'est autre chose que les tensions économiques sur lesquelles on peut peser avec les taux d'intérêt. Et donc, vous imaginez que on agit sur les phénomènes qui sont les ondes de choc d'un moment de guerre en utilisant le même instrument que celui qu'on utilise lorsqu'il y a des tensions sur les marchés économiques. C'est juste un moment d'absurdité. Et corriger cette absurdité, c'est pas ouvrir la boîte de Pandore. Je ne suis pas pour ouvrir la boîte de Pandore, mais je ne suis pas pour autant favorable à une politique en l'occurrence monétaire, qui devient absurde lorsqu'on utilise le mauvais remède par rapport à un phénomène auquel on assiste, qui se traduit par des tensions inflationnistes.
Comme c'est binaire, c'est règles ou décisions.
Ouais. On peut pas avoir d'entre deux. Il y a une différence entre le Covid et les guerres. Malheureusement, les guerres sont assez régulières. Le Covid est exceptionnel.
Il n'y a pas eu tellement de situations de guerre qui ont impacté nos économies d'un point de vue inflationniste. On en a eu 2. On va voir si celle que l'on annonce aujourd'hui va se confirmer. Mais celle avec l'Ukraine est une situation qui est tellement exceptionnelle que d'avoir utilisé les mêmes armes que d'habitude pour lutter contre l'inflation.
On marque une pause. Ça fait pas mal. Alors, Nathalie Janson, que vous connaissez, grande spécialiste des politiques monétaires, elle dit merci à Juan et Emmanuel. Donc, elle n'est pas dans le camp de Léonidas pour défendre les actions de la BCE.
Il n'y a pas de problème à rester stable.
Et elle ajoute qu'il faut arrêter de penser que l'inflation apportée n'est pas de l'inflation, c'est de l'inflation.
Bien sûr.
Après, j'aime bien aussi la remarque de Yann, qui dit, si la rédaction de la Les réactions de la BCE sont aussi basiquement mécaniques, correspondant à des règles. Pourquoi avoir tout un board avec des négociations, des...
C'est justement pour qu'elle soit bien appliquée, mais c'est une question.
On marque une pause. On retournera un instant sur cette histoire de dette, parce que vous ne croyez pas qu'on va baisser le ratio de dette sur PIB. Emmanuel Macron a renoncé à le baisser.
Bah oui,
c'est encore plus simple. Voilà.
C'est logique. Donc,
il a renoncé à le baisser et on continue à lui dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Bah, revirement, est-ce que c'est un renoncement, un revirement sur la dette? Mais je pense qu'on n'en est pas au premier des revirements, ni au dernier concernant la gestion de nos finances publiques. Ils ont quand même l'air un peu morts de faim depuis un mois. Quand on va chercher 10 milliards par décret et qu'on filoute dans tous les sens pour habiller 10 nouveaux milliards d'économies en évitant la loi de finances rectificative parce que le président de la République n'en veut pas, avec des mécanismes quand même qui sont pas malhonnêtes. Enfin bon,
on en parlera.
Bon. On en parlera, ok. Et puis on parlera du CETA et puis on parlera de la norme européenne de sécurité cloud.
De cybersécurité.
De cybersécurité, vous m'apprendrez tout ça tout de suite.